On va prendre Marc 16, le verset 19, 20 et 21. Ça fait au moins trois fois que je reviens sur ces textes-là, et puis je les connais par cœur parce que depuis tant d'années, m'interpelle tout le temps quand je vais dans d'autres sujets, dans d'autres histoires. La Bible, elle est tellement profonde et on ne sait jamais tout. On apprend au fur et à mesure. Moi, j'apprends toujours. Je suis toujours là, un élève de Jésus, un disciple de Jésus. J'apprends toujours. Je ne sais pas tout. Voilà. Chaque fois quand on reprend le même verset quelquefois, voilà, ça nous donne encore plus de courage, ça nous ouvre les yeux, on voit les choses différemment, on voit les choses plus loin, etc. Donc, les seigneurs, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Donc voilà Jésus qui se retrouve avec les disciples. Pardon. Ils ont vu les miracles, les choses extraordinaires. Ils parlaient avec eux. Jésus les a réunis. Ils ont mangé ensemble. Il a fait la Pâque avec. Et ensuite, il a instauré la Sainte-Cène de Nouvelle Alliance. Il était là autour de la table et il y avait Judas. Connaissez l'histoire, il y avait un Judas parmi les 12. Et donc, il y a un certain moment, il leur parlait et tout à coup, il est parti. Il était enlevé. Il s'est retrouvé. Voilà, il était enlevé de cette terre. Et puis ensuite, on lit que. Et ils s'en allèrent, donc les disciples, les apôtres, et ils s'en allèrent prêcher, ils ont compris, que Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle, pour ouvrir la porte vers les saluts, pour apporter la libération pour ceux qui ont été donc éloignés de Dieu, perdus, condamnés à la mort éternelle. D'accord ? Donc, ils sont, les disciples, partis, ils se sont dispersés et ils ont annoncé l'évangile. C'est là la profondeur, c'est là l'essentiel. Ils ont annoncé la vie, l'évangile égale la vie éternelle, d'accord, autour d'eux. Et puis qu'est-ce qui se passait plus loin? Les seigneurs travaillaient avec eux. Je répète ça souvent, vous avez déjà entendu ici pendant ces quelques semaines, peut-être la troisième fois. J'aime tellement. Les seigneurs travaillaient avec eux. Mais comment ils pouvaient travailler avec eux le fait qu'il est parti? Allô? Il était avec eux. Bonjour Pierre, ça va? Viens. Ah ben Jésus vivait comme ça avec les disciples. Une fois de temps en temps, il s'est donné la main. Il n'y avait pas de Covid à l'époque, donc ils s'embrassaient peut-être, je ne sais pas. Bon, bah enfin, c'est un petit détail. Hein. Mais il vivait comme ça. Hein, Jésus, ah bon hein. C'était comme ça, il vivait. Et tout à coup, Jésus n'est plus là. Merci Pierre. Jésus n'est plus là, et puis là, on lit. Les seigneurs travaillaient avec eux. Ça change tout, non? On a annoncé l'évangile, il y a des malades, il y a des gens qui ont besoin d'un changement, des miracles. Et puis Jésus, il est où? Il n'est pas là. Ils étaient humains comme nous. Hein? Pierre, bah, il était comme moi. Il n'est pas meilleur. Imparfait, ça vous le connaissez. Et d'autres, Jean, etc. Donc, ils n'étaient pas là et pourtant, ils travaillaient avec eux. Ça va? Et confirmer la parole qui annonçait, la parole, la vie, annonçait la vie, d'accord? par les miracles qui l'accompagnaient. Par les miracles. Les malades ont été guéris, les démons ont été chassés, les maladies, les frustrations, toutes sortes des oppositions ont été brisées par la puissance de Jésus, qui était dans la vie de ses disciples. Donc, comment comprendre, Jésus est parti, il travaillait avec eux, et en même temps, il confirmait encore. Ce n'était pas juste l'intellectuel. Hein. Il y avait des choses surnaturelles. Parce que les miracles, c'est des miracles, c'est quelque chose qui était impossible pour nous. Et puis Dieu le fait. Amen. Voilà. Donc, vous voyez, et les miracles. Alors, je vais revenir là-dessus. Mais on va lire d'autres versets. Donc, les Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres, chapitre 6. Et on va lire 10 premiers versets. Christian, est-ce que tu peux nous lire ces 10 versets?
En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous impliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche.
Voilà, donc vous avez vu, l'évangile est prêché, les gens se convertissent, il y avait des gens qui acceptaient Jésus-Christ, c'est personnel, amen. C'est très profond, c'est l'essentiel. Et puis ça grandissait. L'Église grandissait en nombre. Et il y avait aussi des besoins pratiques. Il y avait des veuves. Et à cette époque-là, donc, vous avez compris. Voilà, on passait beaucoup de temps à distribuer, à manger, à soutenir, à passer du temps avec des gens, etc. Et tout à coup, voilà les nombres des disciples augmentant. Donc, les apôtres se sont réunis, puis ils ont parlé, ils ont discuté, puis ils ont dit, bon, il faut que ça change, il faut qu'on avance, il faut construire. Bah, pas tous. Passer du temps maintenant à juste passer du temps aux tables, aider, faire nourrir les gens, etc. Donc, ce qu'ils voulaient dire, les apôtres voulaient dire, voilà, nous sommes investis de la prédication de la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile, on ne peut pas faire les deux, et servir aux tables, et aussi annoncer l'évangile. Donc, choisissez 7 personnes. D'accord ? C'est bon ? Et ils ont choisi, parmi ces 7 personnes, il y avait aussi quelqu'un qui s'appelait comment ? Étienne. Étienne choisi par les apôtres. On va juste revenir sur le verset 3 qui nous dit: c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint. Ça change tout, hein? Pas juste d'intelligence, pas tout simplement les diplômes, il y en avait certainement à l'époque déjà d'autres. mais choisissez les gens pleins d'Esprit Saint. Pourtant, faire le diaconat, on appelle ça diaconat, les choses pratiques, donner à manger, servir aux tables, faire le diaconat, est-ce qu'il faut vraiment le Saint-Esprit? Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de quelque chose surnaturel, quelque chose qui vient de Dieu. Mais c'est plus que quelque chose, c'est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, mais d'être rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui est dans l'éternité, mais en même temps, il est dans l'Église, il est avec nous. C'est plus que juste intellectuel. Oui, nous comprenons, nous lisons la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est une manifestation surnaturelle. Donc, ils ont choisi Étienne pour faire les choses pratiques, pour les choses diaconales. Seulement, Étienne, il a fait plus que juste servir aux tables. Le fait qu'il était rempli du Saint-Esprit, donc le verset 10, on a bien encore le verset 10. Donc voilà, Étienne qui manifeste quelque part une bénédiction, une grâce de Dieu parmi ce peuple-là, il y avait une puissance sur lui, et le verset 10 nous dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse, donc par le Saint-Esprit, il avait la sagesse, et à l'esprit par lequel il parlait. Il y avait l'esprit de Dieu. Et il parlait par cet esprit-là qui connaissait les détails, qui connaissait tout, et connaissait le Saint-Esprit, connaît les oppositions, connaît nos combats, les péchés, les liens, les possessions. Rien n'est caché devant Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Dieu agit, il est là. À la façon de Dieu, bien sûr, dans la paix, dans la joie, dans la manifestation, dans le silence, dans la démonstration. La formule, c'est qu'il n'y a pas de formule bien définie pour l'apprendre. Dieu agit comme il veut et comme il a décidé d'une façon exceptionnelle en fonction des oppositions, etc. Donc voilà, Étienne a été choisi, plein d'Esprit Saint. Et aussi, tous ces gens-là, ils ont été donc étonnés de ce qui se passait. On va aller plus loin, on va parler donc d'Étienne encore. Donc, Actes des Apôtres, toujours chapitre 8, et le verset 7, 54 à 60. Excusez-moi, ça arrive. Hein.
En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit.
Voilà, donc, Étienne, il était diacre, il faisait les choses, il était choisi pour faire des choses pratiques, sociales, mais il avait une telle puissance, il a annoncé l'Évangile, ça va ? Et puis donc, il s'est adressé à tous ces gens-là en disant, bah, vous, vous avez crucifié Jésus. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Et tous ses opposants, voilà, ils ne savaient pas de résister contre cette parole puissante que Étienne annonçait par la puissance du Saint-Esprit. Et puis donc, à ce moment-là, voilà, ce sont ces versets-là, ils ne pouvaient pas supporter son message. Et le verset 55 veut nous dire, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, rempli de surnaturel, rempli de la puissance du Saint-Esprit, et fixant les regards vers les cieux, ah, vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Il voit la gloire de Dieu. Alors, pourquoi j'aimerais attirer votre attention sur ces versets-là, sur cette belle expérience d'Étienne ? Ce n'est pas parce que quand on passe par des moments difficiles, que Jésus n'est pas là. Même si nous sommes dans épreuves, même si nous sommes en prison, même si on nous lapide, mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, voilà, la victoire est là, la victoire spirituelle est là. Pourquoi ? Parce que le surnaturel, le Saint-Esprit est en moi, en nous. C'est plus qu'intellectuel. Je souligne toujours, parce que dans les milieux évangéliques, vous avez beaucoup, beaucoup de sensibilité, d'accord ? Et puis j'avais un ami curé qui venait toujours pendant quelques années nous souhaiter bonne année à Waterloo. J'ai prié pour lui, c'était dans un chapitre d'homme d'affaires. Ce curé m'a dit, « Mais Antoine, vous parlez aux langues, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, et nous, chez les catholiques, on n'a pas... » Je dis, « Écoute, oublie que tu es catholique, j'oublie que je suis évangélique, on est avant tout les enfants de Dieu. » Et puis voilà, bon, je vais prier pour toi, parce qu'il m'a demandé que je prie pour lui. « Je vais prier pour toi, et tout de suite, tu reçois le Saint-Esprit. » Ce n'est pas la peine d'attendre, changer. On n'a pas le temps à perdre. Pourtant, j'étais beaucoup plus jeune. Et puis, j'ai juste posé ma main sur sa tête, et je dis, « Seigneur, que le Saint-Esprit descende sur lui. » Et je lui dis, « Jean-Marie, dis tout simplement quelques mots, « Seigneur Jésus, je reçois ton esprit. » Et j'ai dit, « Alléluia !» Alors lui, il a dit, « Alléluia !» Et il a parlé aux langues. Et les secrétaires chapitre d'hommes d'affaires, bon, c'est les hommes d'affaires qui se réunissaient, voilà, pour donner la possibilité, inviter les hommes d'affaires pour qu'ils puissent écouter l'Évangile. Et les curés, les pasteurs étaient invités aussi. Et donc, le secrétaire qui était mon ami, il est venu me voir, il me dit, « Antoine, mais t'as fait un peu trop de bruit. Hein. C'est pas l'endroit. Hein. C'est pas l'endroit pentecôtiste. Hein. » Oh, je dis, « C'est trop tard, il est déjà né de nouveau, c'est bon. La naissance est née, il y a eu la naissance spirituelle d'un enfant quand il y a une naissance, la femme crie. La mienne, elle criait tout le temps. Pendant la naissance. Hein. Donc, voilà, nouvelle naissance, un bébé arrive, maman pleure parce que ça fait, ça fait, ça, Ça fait deux. Donc moi j'ai dit, c'est une nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Et puis bon, il m'a pardonné. C'est juste pour vous dire que on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Et je vous ai dit que voilà, il y a différentes sensibilités chacun. Je me suis trouvé quelquefois dans des réunions où j'ai dit, Seigneur, mais j'apprends, je comprends ce qu'ils vivent. Ils vivent les choses différemment, intellectuellement. Le Saint-Esprit, comme les curés, ben oui, le Saint-Esprit, Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais ce curé-là, il a compris. Il avait besoin de quelque chose de plus, il a reçu le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'était beau, hein? Donc, différentes sensibilités. Mais nous avons... Il y a une grâce de Dieu. Il y a une grâce de Dieu où beaucoup, beaucoup de chrétiens dans le monde, ce n'est pas juste le phare, dans la région, en France, dans le monde entier, en Afrique, partout. Et on essaye de se voir, vous savez, quelquefois, quand on est invité, et puis on ne sait pas très bien jusqu'où on peut aller. Et puis on essaye de poser la question, qu'est-ce que vous vivez? Et puis tout à coup, il y a quelqu'un, il y a un pasteur qui me dit, « Ah, oh, ici, il y a vraiment l'onction de Dieu. » Ah, bah très bien. Donc, l'onction de Dieu, bah moi, j'aime l'onction de Dieu, on va aller à fond. Ça se passe un peu comme ça, mais le salut est donné par la personne de Jésus, par Jésus. C'est Jésus qui est mort pour nous, mais cette grâce, cette bénédiction, vous avez vu, Étienne, qui était rempli du Saint-Esprit, il était plein de feu et d'esprit, d'accord, plein de foi plutôt, et d'esprit, et il pouvait affronter cette opposition qu'il rencontrait par les pharisiens, par toutes sortes de personnes, d'accord. Donc il a vu la gloire de Dieu. Et deuxième point important, quand le fait que Étienne était lapidé, d'accord? Le verset 60 nous dit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Et dans cette épreuve, dans cette persécution, dans ces douleurs physiques, les pierres qui tombaient sur son corps, essayait de réfléchir, de réaliser ce qu'il a vécu. Quelle douleur, physiquement parlant. Et il s'est permis de dire, ah, Seigneur, ne leur impute pas ce péché, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui m'intéresse, c'est l'essentiel pour eux. C'est que tu puisses les sauver en ton nom. Amen. Combien nous aujourd'hui? Nous sommes souvent devant les réalités parce qu'on nous a critiqués, parce qu'on nous a fait un peu de mal, parce qu'on nous a trahis, etc. Et combien nous avons difficulté à pardonner. Je pense à cette dame qui disait, je ne veux jamais pardonner à mon ex-mari. Je veux que la justice les punit, au lieu de dire Jésus. C'est vrai. C'est pas facile. Quand on est devant les souffrances par un mari, les trahisons, etc., etc., de pardonner, c'est pas facile. Mais regardez, si le Saint-Esprit est en nous, ben, qu'est-ce qu'on va dire? Pardonne-lui. Pardonne. Seigneur, l'essentiel, c'est que la personne soit quoi? Sauvée, passée de la mort à la vie. Amen. Voilà, donc l'Église active, en action, voulons avancer et nous voulons que les choses se passent.